Place Info.
Céline Baydarcourt, vous tirez un coup de chapeau, Céline, au groupe M6 qui se mobilise dans la lutte contre les violences faites aux femmes.
Et à l'occasion de la fin lundi du Grenelle contre les violences conjugales, M6 a prévu un dispositif spécial dès dimanche. Zone interdite nous plongera au cœur du procès d'un homme qui a tué sa compagne parce qu'elle voulait le quitter. Juste après, à 23h, retour sur le drame de Vilnius dans Enquête exclusive avec un document inédit sur le meurtre de Marie Trintignant par Bertrand Cantat. On va y revenir. Sur Téva, autre chaîne du groupe M6, également une programmation spéciale toute la semaine et notamment mardi prochain, un documentaire consacré à Julie Dwib, celle qu'on a surnommée la numéro 30 parce qu'elle fut la 30e femme morte cette année sous les coups de son ex-conjoint. C'est ce drame qui a enfin provoqué une prise de conscience et a abouti à la tenue de ce Grenelle.
Et vous l'annonciez, on revient donc sur ce film, sur l'affaire Cantat qui sera diffusé dimanche soir sur M6. Son producteur est notre invité.
Bonjour Jacques Aragonès. Bonjour. Alors nous allons découvrir pour la première fois la vidéo des deux auditeurs de Bertrand Cantat devant la justice lituanienne en août 2003. On est quelques jours après la mort de Marie Trintignant qui a été tuée par le chanteur. Comment vous êtes-vous procuré ces documents ?
Alors c'est une affaire que j'ai traitée depuis le début, donc au début des années 2000-2003. Cet été 2003, tout le monde s'en souvient, ce drame de Vilnius. Donc en fait, quand il s'est agi de retravailler sur les violences conjugales dans le cadre d'une soirée spéciale pour M6, on a très vite parlé avec mes interlocuteurs à M6, Jean-Marie Goy, Vincent Régnier, de cette affaire, parce que pour nous elle était emblématique des violences faites aux femmes, cette affaire Cantat. Donc j'ai réactivé mes contacts sur place, je me suis souvenu que ces auditions-là avaient été filmées, que la presse écrite même avait fait des verbatims à l'époque par Image de ces auditions-là. Donc je suis reparti sur place, j'ai retrouvé mes contacts sur place, notamment un journaliste d'investigation lituanien, un producteur, qui lui-même avait traité en 2014 cette affaire, en mettant des extraits de ces auditions-là. Donc j'ai travaillé avec lui et il nous a cédé l'intégralité de ces images-là. Donc plus de 6 heures d'audition. Il y a celle, effectivement, vous l'avez dit, du 8 août et du 21 août 2003.
Est-ce que c'est légal de diffuser ces images en France ?
Oui, alors d'abord, c'est le droit lituanien qui s'applique, mais c'est légal parce que de façon, quand on invoque généralement la présomption d'innocence, là, l'affaire a été jugée de manière définitive en 2004. Mmh. Et puis, ce sont ce qu'on appelle des pièces procédurales publiques qui ont vocation à être rendues publiques, notamment au procès, à l'audience qui est donc publique par définition, le procès d'assises. Donc, ce sont des images qu'on a pu diffuser, effectivement.
Ça veut dire que les avocats de Bertrand Cantat n'ont pas tenté de faire interdire leur diffusion ?
Non. Non, non, non.
Alors,
et ces avocats qui étaient présents d'ailleurs, il ne s'agit pas du tout d'une garde à vue, c'est une audition devant la justice, il est assisté de ses deux avocats, Maître Messner à l'époque, et son avocat lituanien, qui est dans le sujet, qui réagit, et qui sait très bien qu'on utilise ces images, puisqu'on le fait réagir à les images de cette audition. Le procureur de la République aussi, qui assistait à l'audition. Donc voilà, enfin je veux dire...
Dans,
y a pas de souci.
Dans ce documentaire, Jacques Aragonès, donc il y a beaucoup de témoignages, vous venez d'en citer quelques-uns, et il y a des témoignages de personnes qui n'ont jamais parlé. Et je pense par exemple à l'un des assistants du film qui est le dernier à avoir vu Marie Trintignant vivante.
Oui, André Osiluga, tout à fait.
Lui dément complètement la version de Bertrand Cantat.
Oui, je pense que vous faites allusion à Bertrand Cantat dans son audition, dit que c'est une dispute dans la chambre d'hôtel qui a mal tourné. En fait, c'est un climat violent toute la soirée, et c'est ce que explique très bien André Osiluga, c'est-à-dire que ça a commencé plusieurs heures avant. Il y a eu ce pot de fin de tournage où effectivement Bertrand Cantat a montré des signes déjà, pas de violence en public, mais en tout cas on sentait que la situation était très tendue.
Il y a quelque chose qui montait.
Voilà. Et ensuite ils sont allés chez André Ous, ils ont commencé à boire, etc. Puis là il a eu déjà des réactions aussi violentes, impulsives, colériques. Et puis tout ça est allé crescendo jusqu'au drame final. Voilà.
Vous avez demandé à Bertrand Cantat d'intervenir dans
évidemment,
votre documentaire ?
Évidemment, évidemment.
Il a refusé.
La journaliste Delphine Lopez l'a sollicité quasiment dès le départ d'enquête, de différentes manières, par message, par mail, elle lui a fait une lettre. On a évidemment contacté son actuel avocat pour le solliciter, lui ainsi que son client, et on a essuyé un refus. Voilà.
Alors on va écouter un extrait. Cantat raconte sa version des faits, il explique que c'est Marie qui a frappé la première, qu'elle était hystérique, ce sont ses propres termes, et finalement, elle l'a poussée à bout.
Je suis rentré dans une colère noire, et à partir de là, moi, je lui ai mis des claques, et pas des petites baffes, je peux pas mentir. C'est des grandes baffes, j'avais des bagues à mes doigts. Et c'est parti comme on lâche une... C'est parti tout comme ça. La vérité du moment, c'est ça.
Pouvez-vous montrer comment vous avez donné ces quatre plaques?
Des grandes lâchées comme ça. Quatre ou cinq ou six. Des grandes comme ça. Très fort.
Et c'est terrible quand on voit aussi les images parce que Bertrand Cantat refait les gestes.
Oui, il mime les gestes, oui, tout à fait. Les gestes de cette, la manière dont il a frappé Marie Trintignant. Et c'est vrai que, Bertrand Cantat fait plus de 80 kilos, on imagine. Enfin, c'est quand même,
Le combat est inégal, même si elle aussi frappait, il montre.
Si on peut parler de combat.
Lui, il montre ses bleus. Moi aussi, j'ai eu ma liste victimise,
Oui, il dit même à un moment donné, personne ne s'est intéressé aux blessures qu'elle m'a infligées, d'une certaine manière. Et c'est vrai que ces propos-là peuvent heurter.
Est-ce que c'est utile de voir ces auditions?
Je pense que non seulement c'est utile, mais c'est même indispensable dans ce contexte-là. Pourquoi? Parce que ça raconte d'une certaine manière ce qu'on retrouve dans beaucoup de cas d'affaires de violence conjugale. C'est-à-dire, on revient sur les causes, on revient sur la manière dont Bertrand Cantat s'exprime, essaie de justifier, de se victimiser d'une certaine manière, de justifier son comportement. On le retrouve, et là il y a eu des études, des chiffres qui corroborent ça, dans de nombreux cas de violence conjugale.
C'est un processus assez typique.
Typique, complètement. On retrouve les marqueurs de la violence des hommes envers les femmes sur des affaires de violence conjugale qui ne sont pas, évidemment, que des affaires qui mettent en scène des personnes célèbres, mais c'est des gens lambda.
Et là, on n'a malheureusement plus le temps d'en parler, mais c'est vraiment toute l'histoire de Bertrand Cantat, pas uniquement avec Marie Trintignant. Vous arrivez quasiment à la conclusion qu'il est responsable aussi du suicide de son épouse Christina, qu'il maltraitait.
Alors l'affaire a été classée sans suite, il faut quand même le préciser, mais effectivement il y a eu ce message téléphonique de Christina à ses parents où elle décrit pendant 7 minutes les violences qu'elle subit, le climat de violence psychologique qu'elle subit, et c'est vrai que tout ça en tout cas pose question.
Ouais. Jacques Aragonès, merci d'avoir été avec nous. Dans l'Info Média, votre documentaire Affaire Cantat, le document inédit, c'est à voir donc dimanche à 23h sur M6.